histoire particulière. Selon le dictionnaire de droit international pénal en 2015, un criminel de guerre est une personne qui a commis un crime de guerre et dont la responsabilité pénale individuelle se voit dès lors engagée. Parmi les chefs d'accusation retenus, l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, l'appropriation de biens non justifiés. La construction des 8 émissions d'une histoire particulière que vous allez écouter le samedi à 17h suit le même procédé. D'abord les faits. Ils sont souvent violents, difficiles d'écoute, mais nécessaires. Puis vient la personne elle-même. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son parcours? Comment a-t-elle basculé dans la banalité du mal? Et pour terminer, le récit de sa traque, sa chute, souvent sa mort. Chaque portrait démontre que, quelles que soient les époques et les guerres, hélas, l'histoire se répète.
Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles.
Février 1955. Premier contact avec le FLN. Pour que mon magasin de radioélectricité devienne la boîte aux lettres du FLN. Cachette d'armes. Distributeur de tracts. Collecteur de fonds et de matériel médical.
Transcription du témoignage d'Adan Ramdam, né le 12 janvier 1934.
22 juillet 1957. Arrestation à mon domicile dans le quartier Bellecour. 19h30, arrivée à pied, encadrée par 2 individus en civil à la villa Sakina. Dès l'entrée de la villa, je reçois un grand coup de pied qui me fait tomber dans les escaliers de la hauteur d'un étage. Une fois sur mes pieds, 4 ou 5 paras au béret rouge m'entourent. Après de multiples insultes, on me présente un homme, physiquement très amoché, qui tient à peine debout. Il dit au para en me désignant « Oui, c'est lui ». Et on me jette dans la buanderie, qui était la salle de torture.
Paulo Sarès, La torture est mon métier, Alain Lefkovitch, Marie-Laure Ciboulet.
En 1957, quand Sarès est nommé à l'état-major du général Massu à Alger, la question de la torture apparaît très rapidement dans la presse.
Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
Au printemps 57, février-mars, vous avez dans la grande presse nationale ce qu'on appelle le scandale de la torture. Vous lisez Le Monde de l'époque, très régulièrement vous avez de grandes affaires. Il y a le dit suicide de Larbi Ben Midi, il y a le dit suicide d'Ali Boumengel. Il y a la disparition de Maurice Audin, ça c'est juin. Il y a Aleg, dont on se demande à un moment donné où il est, mais juillet, août, ça occupe aussi la presse. Il y a une mission parlementaire qui va en Algérie aussi, en 57, et qui rend un rapport où il y a eu discussion entre ses membres, mais un des membres de cette mission, qui s'appelle le docteur Ovnanian, fait des déclarations tout à fait claires sur le fait qu'il est docteur, qu'il a vu des traces dans les prisons d'Algérie sur les détenus et qu'il y a torture. Donc, en 57, la question de la torture est sur la place publique. Mais Sarès, lui, c'est un homme de l'ombre à ce moment-là.
8 janvier 1957. Le général Massu quadrille Alger avec sa 10e division parachutiste. Pas moins de 8000 hommes. La grande répression d'Alger va commencer. À la manœuvre pour, dit-on, pacifier la ville, celui qui n'est encore que commandant, Paulo Sarès, à qui Massu, son supérieur hiérarchique direct, a donné carte blanche. Avec lui, la torture s'institutionnalise, devient légale. Le fervent communiste Henri Alleg, journaliste et ancien directeur du journal Alger Républicain, va être un des premiers à dénoncer cette torture systématique. Il va en faire les frais. Il est arrêté le 12 juin 1957 au domicile de son ami Maurice Audin.
Le lieutenant me regarde et il est venu vers moi. Il m'a enlevé la moustache, il m'a regardé et il a dit au policier « Ah, excellente prise !»
Torture et mauvais traitements se suivent et s'intensifient. C'est ce qu'il raconte dans son ouvrage intitulé « La question », écrit clandestinement alors qu'il était en détention.
Jacquet agita d'abord devant mes yeux les pinces qui terminaient les électrodes. Il m'en fixa une au lobe de l'oreille droite, l'autre doigt du même côté. D'un seul coup, je bondis dans mes liens et hurlai de toute ma voix. Charbonnier venait de m'envoyer dans le corps la première décharge électrique. Près de mon oreille avait jailli une longue étincelle, et je sentis dans ma poitrine mon cœur s'emballer. Je me tordais en hurlant et me raidissais à me blesser, et tandis que je continuais à crier, il dit à Jacquet « Bon Dieu qu'il est gueulard, foutez-lui un baillon !» Je serrai de toutes mes forces le tissu entre mes dents et j'y trouvai presque un soulagement. Brusquement, je sentis comme la morsure sauvage d'une bête qui m'aurait arraché la chair par saccade. Souriant au-dessus de moi, Jacquet m'avait branché la pince au sexe. Les secousses qui m'ébranlaient étaient si fortes que les lanières qui me tenaient une cheville se détachèrent.
La séance de Gégène commence.
On arrêta pour les rattacher et on continua.
Dynamo de campagne.
On m'avait aspergé
d'eau pour renforcer encore l'intensité du courant. Plus violents en fonction de la manipulation de l'instrument.
Je tremblais aussi de froid.
Mes cris de douleur sont couverts par la musique de Bambino, la chanson de Dalida. Lui affirme. Moi, je nie. Jusqu'au moment où il tue mon délateur. Pour lui, c'est terminé. Pour moi, c'est le début. Après la Gégène, je reçois des coups de pied violents. Je suis étendu au sol, à demi inconscient près de la bassine d'eau. Puis, ils me pendent par les coudes. Mais je résiste en niant ma participation au FLN. Pendant 4 ou 5 jours, je suis attaché à un citronnier dans le jardin. Et à chaque fois que des groupes d'hommes sont arrêtés, ils les obligent à me reconnaître. J'ai vu beaucoup de choses. Des pages entières ne suffiraient pas. Les méthodes de torture sont toujours plus perfectionnées les unes que les autres. Le nombre de morts par nuit était en moyenne de 2 à 3.
Tu vas parler. Tout le monde doit parler ici. On a fait la guerre en Indochine. Ça nous a servi pour vous connaître. Ici, c'est la Gestapo. Tu connais la Gestapo? Puis, ironique, tu as fait des articles sur les tortures, hein, salaud? Eh ben maintenant, c'est la 10e d'épée qui les fait sur toi. Tu sais nager ? Dit Lorca penché sur moi. On va t'apprendre. Allez, au robinet. Au robinet nickelé qui luisait au-dessus de mon visage, Lorca fixait un tuyau de caoutchouc. Il m'enveloppa ensuite la tête d'un chiffon. Quand tout fut prêt, il me dit « Quand tu voudras parler, tu n'auras qu'à remuer les doigts. » Et il ouvrit le robinet. Le chiffon s'imbibait rapidement. L'eau coulait partout, dans ma bouche, dans mon nez et surtout mon visage. J'avais l'impression de me noyer, et une angoisse terrible, celle de la mort elle-même, m'étreignit. Malgré moi, tous les muscles de mon corps se bandaient inutilement pour m'arracher à l'étouffement. Malgré moi, les doigts de mes deux mains s'agitèrent follement. « Ça y est, il va parler !» dit une voix. L'eau s'arrêta de couler, on m'enleva le chiffon. Je respirais. Dans l'ombre, je voyais les lieutenants et le capitaine cigarette aux lèvres, frappés à tour de bras sur mon ventre pour me faire rejeter l'eau absorbée. Grisé par l'air que je respirais, je sentais à peine les coups. Alors ? Je restais silencieux. Il s'est foutu de nous. Remettez-lui la tête dessous.
Osarès, à ce moment-là, c'est un homme de l'ombre. Parce que bien évidemment que, en réalité, en particulier à Alger en 57, c'est un vrai système répressif qui est mis en place.
Sylvie Thénault.
Il est à l'état-major de Massu avec Trinquier, pendant la première partie de la bataille d'Alger, en gros la première moitié de l'année 57, si je simplifie un tout petit peu. Trinquier, c'est l'auteur d'un livre dans lequel il développe l'idée qu'il y a une autre morale de la guerre quand on a affaire à des terroristes. Parce que le terroriste n'est pas un combattant comme un autre, Il est un lâche, si je le dis rapidement, parce qu'il n'est pas en uniforme, identifiable, il agit au milieu des civils, clandestinement en se cachant. Et Osarès est à la tête de commandos dont on ignore l'existence en 57, qui sont réellement des équipes de tueurs, à qui on va confier l'exécution des prisonniers importants, mais aussi certainement des exécutions pour des raisons moins avouables. Par exemple, des prisonniers ont été tellement torturés qu'ils sont physiquement trop marqués pour être laissés en vie, parce que si on les laisse en vie, leurs corps vont devenir des preuves de la pratique de la torture.
Son rôle n'était pas de torturer, son rôle était de faire parler.
Florence Baugé, ancienne journaliste du Monde.
Et ensuite, comme il avait chosifié les gens, il les exécutait parce qu'il n'avait pas le temps et pas la place, comme il me disait, de les entreposer quelque part. Il en parlait comme des colis.
Général Paul Osarès, bonsoir. Étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957.
Archives France 2, 23 novembre 2000.
Vous avez participé à des actes de torture ?
Non.
Mais vous avez participé à des exécutions sommaires ?
Oui.
Vous avez exécuté combien de gens ?
Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé...
À notre concert du Monde, Florence Baugé.
Eh bien, j'en ai exécuté 24.
Est-ce que vous avez des remords ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme.
Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer ?
Non, non, non.
Alors vous devriez en avoir des regrets ? Vous devriez vous dire, c'est pas comme ça qu'on mène la guerre ?
Écoutez, nous n'avions pas le choix.
On sait aussi, et là, ni Osarès, ni Massu, par exemple, ne sont bien clairs sur cette question, et en tout cas pas explicites, parce que là, même pour Osarès, dans la verve et dans la gouaille un peu militaire qu'il utilise, il y a quelque chose qui est peut-être trop transgressif, même pour lui. On sait que sont utilisées également des violences d'ordre sexuel.
Malika Rahal, historienne française et algérienne, spécialiste de l'Algérie.
Que les militaires perpètrent des viols, parfois de façon répétée. C'est l'un des témoignages qui a fait émerger en France cette question de la torture et a fait émerger la figure du général Osarès, Louisette Hérez-Lahrez, qui en est l'un des premiers témoins directs.
Je me battais pour l'indépendance et un jour je suis tombée dans une embuscade.
Qui est en mesure de dire que oui.
J'étais grièvement blessée.
Elle a été violée par les parachutistes qui l'ont détenue.
On m'a transférée au siège de la 10e division parachutiste du général Massu à Hydra.
20 juin 2000, Louisette Higuilariz, ancienne combattante algérienne, raconte son calvaire à Florence Baugé. Son histoire, Louisette ou le dernier tabou de la guerre d'Algérie, est le premier film d'animation réalisé par Le Monde et la revue dessinée.
Sur les hauteurs d'Alger, il y avait un capitaine, un certain Graziani.
C'est sur la question du viol qu'on a le moins de témoignages, que les témoignages sont les plus longs et les plus difficiles, les plus douloureux aussi à recueillir et à fournir pour les témoins. On sait que la violence sexuelle est utilisée contre les femmes, on sait aussi qu'elle est utilisée contre les hommes.
Il venait dans mon box plus souvent que les autres.
Tu vas parler, oui. Des noms. On veut des noms.
Je veux mourir. S'il vous plaît, je veux mourir. Vous n'êtes pas des hommes si vous ne m'achevez pas.
Crache-nous tout. Parle. Parle. C'est que c'est une vraie femme.
J'ai été détenue pendant 3 mois.
Parle !
Et on m'a interrogée tous les jours.
Je ne parlais toujours pas. Je tenais le coup. Je me maîtrisais comme je peux. Mais je souhaitais mourir. Pour arrêter ces douleurs. Et j'avais pas d'objet pour essayer de me suicider. J'en avais pas. J'avais rien. J'étais toute nue sur un lit de camp. Je faisais tout sur moi. Et puis, ils étaient sales avec moi. très sale. Abject.
Une femme, vous savez, c'est très... Une femme. Le viol, c'est tout. D'une façon très, très violente. C'est tout. C'est beaucoup. C'est de l'humiliation, hein. C'est pire, ça. J'aurais préféré la GGN, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré, je sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats. Et puis les mots grossiers, là, ça, enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol.
Le général Ossarès, c'était un drôle de personnage que j'ai rencontré en l'an 2000.
Florence Bauger, ancienne journaliste du Monde.
Un jour, j'ai sorti une interview qui est passée à la une du Monde sur le viol d'une femme par l'armée française. C'était en juin 2000. C'était une femme qui recherchait son sauveur. Tout ça a enclenché un retour de mémoire. Et de là, j'ai été mise en contact avec Ossarès. Un jour, Ossarès a débarqué au Monde. Et à partir de là, pendant à peu près 2 mois, raison de 1 à 2 petits déjeuners par semaine, on s'est rencontrés à la cafétéria du Monde. Personne ne comprenait ce que je faisais avec ce vieux monsieur qui arrivait avec un œil bandé parce qu'il avait eu une opération de la cataracte qui avait mal tourné. Ça le rendait très malheureux d'ailleurs. Il avait une coquetterie alors qu'il avait déjà 82 ans. Et les petits déjeuners, écoutez, se poursuivaient parce que finalement, ça trompait son ennui. Et il était content de me parler à cause de ça. On croit souvent qu'il m'a parlé parce qu'il avait des remords et qu'il avait besoin de libérer sa conscience, mais c'est complètement faux. Il m'a parlé uniquement parce qu'il s'ennuyait et que ça faisait des rendez-vous réguliers, un peu comme les contes des mille et une nuits qui se poursuivent à condition qu'il parle. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais c'est sûr qu'il était en manque d'affection, certainement, en manque de sensations fortes parce qu'il avait eu une vie qui avait été passionnante et que là, il s'ennuyait. Il avait besoin un peu de piquant pour sortir de sa vie monotone. Mais en fait, c'était, vous savez, le drame de son vieillissement. Hein.
Alors pourquoi vous avez accepté, petit déjeuner après petit déjeuner, de poursuivre cette relation avec Paul Ossarès, sachant qu'effectivement, c'est un homme qui n'a jamais exprimé ni remords ni regrets?
J'ai accepté parce qu'il avait des choses à dire. Et si vous voulez, dans notre métier, comme dans le métier d'historien, il faut de tout pour faire l'histoire, même l'ordure. C'était ce que disait un grand historien qui s'appelait Irénée Maroux. Et Vidal Naquet me le citait régulièrement en me disant « il faut de tout pour faire l'ordure ». Et certainement que Ossarès, d'une certaine façon, était une ordure. Mais je n'avais pas de jugement à émettre. Si vous voulez, moi, c'était utile. Ma grosse difficulté, c'est qu'il avait envie de parler tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, ça le passionnait.
De l'Algérie, il parle peu. Comme si cet épisode n'était pas au nombre des plus marquants de sa vie.
Alors que la guerre d'Algérie, pour lui, c'était anecdotique.
Si on insiste, il s'incline, mais presque pour se montrer aimable. Des nombreuses anecdotes qu'il raconte, un certain nombre de figures émergent au fil des jours.
Florence Bauger, Le Monde, 19 mai 2001.
Le général Massu, qu'il aime beaucoup, mais qui était emmerdant. Godard, le second de Massu, un homme qui ricanait et ne pouvait pas me voir. Ni lui, ni le lieutenant-colonel Trinquier, parce qu'on ne sortait pas de Saint-Cyr. Jean-Marie Le Pen, irréprochable quand il était en service, mais qui me posait de sacrés problèmes le reste du temps, car il avait souvent un coup dans le nez. Et alors, il cherchait la bagarre. Le lieutenant Charbonnier, assassin présumé de Maurice Audin. Un couillon. Le capitaine Graziani, tortionnaire en chef de Louisette Aguilaris. Un type très sympa, mais à qui il fallait serrer la vis. De Bollardière, le militant anti-torture. Un homme adorable, beau comme un dieu. Mais qui s'est fait monter la tête par Servan Schreiber. Une sacrée ficelle, celui-là.
Il m'a dit que la première fois qu'il avait torturé, c'était à Philippeville, l'actuel Skikda. En 1955, il avait été très choqué. Philippeville, je pense que c'est l'année zéro. Il y a eu un massacre terrible d'Européens par des partisans du FLN. Et les représailles ont été monstrueuses. Et ensuite, il a été appelé par Massu pour ses faits d'armes, entre guillemets, de Philippeville. Et il a réitéré tous ses actes en pire à Alger. Ça, c'était l'année 57, pendant la dite bataille d'Alger. Et je pense qu'il s'est habitué. Et qu'il y a eu un ressort émotif, si vous voulez, qui s'est cassé. Et qu'il faut pas oublier une chose, c'est que Ossarès, la vie ne comptait pas. Ni pour lui, ni pour les autres. La vie avait peu d'importance. Donc, si vous voulez, il ne faisait pas de cadeaux aux autres, mais il ne s'en faisait pas. Il était prêt à mourir comme il était prêt à tuer. C'était un homme bourré de contradictions, très très complexe, extrêmement cultivé, qui adorait Virgile, Baudelaire, Aragon, Peggy, qui me citait sans arrêt des vers, comme ça, avec une mémoire assez phénoménale, et qui pouvait me parler, me faire le baise-main en bas des ascenseurs du Monde, et 2 minutes après m'expliquer comment il avait tué de sang-froid je ne sais combien d'Algériens.
Il est originaire d'une famille de la région de Bordeaux. Il a effectivement un parcours qui est le parcours d'un sachant, ce qui, quand même, dans la société de l'époque, n'est pas une mince affaire. C'est quelqu'un qui va au lycée Montaigne, à Bordeaux, souvent, dans ses entretiens avec Florence Bauger, fait état de ses lettres, de sa culture.
Malika Rahal, historienne française et algérienne, spécialiste de l'Algérie.
Il y a vraiment ces moments apparemment contradictoires où il est à Philippeville en train de perpétrer la torture et puis en même temps d'écrire un mémoire sur, que sais-je, l'œuvre de Virgile. Donc cette culture, elle est omniprésente dans son travail et en même temps, il y a cette acculturation à l'armée. Si on réfléchit en termes de contradiction, ça me paraît contradictoire qu'un homme si cultivé torture. On ne voit pas ce qui construit de la cohérence dans ses parcours, qui est vraiment la société coloniale, qui est vraiment l'idéologie de l'Empire et la place de l'armée dans ce système. Donc c'est vraiment fondamental de se remettre dans le cadre de la société de l'époque pour bien comprendre ce qu'était cette société de notre passé et comprendre comment aussi ça peut avoir un impact sur notre société d'aujourd'hui.
C'était un personnage assez étonnant parce que la première fois que je l'ai eu au téléphone, je me souviens toujours de ces mots. Il m'avait dit, vous savez, on dit que je suis un voyou, mais je suis un voyou de la République.
Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine.
Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous voulez dire, ben, je veux dire que moi, tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. Donc, il s'est jamais départi de ce rôle en disant, je suis un bon soldat. Et il a raison, parce qu'il n'a rien fait tout seul dans son coin. Hein. C'était pas un électron libre. Général Sarès, il a fini général, mais il a fait partie des services secret français, du SDEC, services spéciaux, enfin. Et puis donc, c'est un fils de bourgeois du sud de la France qui va devenir résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va se retrouver embarqué en Angleterre, rejoint De Gaulle, etc., se retrouve dans les services spéciaux. Il a fait des trucs de dingue, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans les Jetbourg. Jetbourg, c'était entraînement extrêmement difficile. Il a sauté quand même en 1944 en uniforme allemand du côté de Marbourg pour prendre contact avec un camp de prisonniers. Enfin, il fallait en avoir, hein. Enfin, franchement. Et il va rester dans cette boutique-là. Et il va être formé pour faire tous les sales coups de la République. Assassiner, voler, mentir. Enfin, voilà. Dans tous les coups tordus, en Afrique, partout, quoi. Voilà. Bon, Sarès est parti pour former les militaires américains. Moi, j'ai retrouvé ses élèves, des généraux et colonels américains que je suis allé interviewer, qui expliquaient comment, c'était vraiment très très nouveau, les enseignements d'Ossarès, toute cette technique de la guerre antisubversive, etc., qu'ils étaient fascinés, qu'ils se sont inspirés des Français pour ensuite mener l'opération Phoenix, par exemple, au Vietnam, qui est une copie de la bataille d'Alger à Saigon. Ossarès avait apporté le livre de son ami, du colonel Trinquier, La guerre moderne, qui était devenu un best-seller de toutes les académies militaires, sur donc cette technique de guerre antisubversive. Bon voilà, et ensuite, Ossarès, il l'a envoyé au Brésil, au moment de la dictature.
Je pense qu'il a été pris dans un sentiment de puissance, et que ce sentiment de puissance qui venait de son droit de vie et de mort l'a conduit à poursuivre cette folie meurtrière.
Claire Moscopo, historienne de la guerre d'Algérie et des violences de guerre.
Et il aurait pu rester celui de l'ombre, l'homme de l'ombre. Mais c'est quand même étrange qu'il est sorti de l'ombre, justement dans les années 2000, après que Florence Bauger ait interviewé Massu, le général Massu, et le général Bijard. Ces interviews les a placés en pleine lumière dans les médias. Et lui, Ossarès, était dans l'ombre. Peut-être a-t-il voulu, lui aussi, profiter de la lumière des médias.
C'est en juillet 2000, peu après les regrets du général Massu à propos de la torture en Algérie, qu'il sort de l'ombre pour la première fois.
Florence Baugé, Le Monde, 19 mai 2001.
Le journal du dimanche lui ouvre ses colonnes. L'interview passe inaperçue, et pourtant on y apprend un certain nombre de choses sur les pratiques de l'armée française dans les années 1950, ainsi que sur la complicité du pouvoir civil de l'époque. En octobre suivant, Ossarès est invité par Le Monde à prolonger cet entretien.
Il n'avait qu'un sujet capable de les attirer, c'est justement les services secrets. Et il a reconnu ce que les autres dissimulaient. Il a fait l'unanimité des militaires contre lui, des supérieurs contre lui, parce qu'il a dévoilé l'illégalité des moyens qu'ils avaient utilisés durant la guerre d'Algérie et même l'illégitimité de leur action. Peut-être aussi, vous savez, c'est comme les criminels, et on peut dire que Ossarès, comme beaucoup de militaires, ont été des criminels de guerre. Comme tous les criminels, il y a un moment où ils ont envie de dire ce qu'ils ont fait, parce que ils en sont un peu fiers. Ils ont besoin de justifier leur vie.
Après ces révélations au Monde, Paul Ossarès renchérit, persiste et signe en publiant le 3 mai 2001 aux éditions Perrin un ouvrage choc intitulé « Services spéciaux, Algérie, 1955-1957 ».
Je suis conscient que le récit qui va suivre est susceptible de choquer.
France 2.
J'estime qu'il est désormais de mon devoir de raconter.
2001.
Avant de tourner la page, il faut bien que la page soit lue et donc écrite. Ces phrases, le général Ossarès les a écrites en préface de son livre aujourd'hui si controversé.
Le livre, d'abord, en l'an 2000, quand j'ai fait parler Ossarès pour Le Monde, il m'a dit « j'ai encore des choses à dire, est-ce que je peux écrire un livre avec vous ?» Je lui ai dit « non, j'ai pas le temps ». Et puis il est réapparu 6 mois plus tard, très guilleret, en me disant « ça y est, je l'ai écrit ». J'ai compris que c'était la transcription, avec l'aide en effet de quelqu'un d'extérieur, de ses confessions au chat, le service historique de l'armée de terre de Vincennes. Ils ont réussi à lui faire dire qu'est-ce qu'il en était de Ali Boumengel, un avocat très engagé auprès du FLN, qu'il avait fait précipiter du haut d'un 5e étage d'un immeuble d'Alger, ou bien de Larbi Ben Midi, qui était un peu le Jean Moulin algérien, qu'il a fait pendre. Il m'a raconté la scène de pendaison. C'est pas lui qui a passé la corde autour du cou, mais c'était lui qui était présent. Et la corde s'est cassée et ils y sont repris à 2 reprises. Donc ce livre a une valeur assez considérable.
Paul Ossarès a publié un premier livre, il en fera d'autres récits ensuite, qui raconte ce qu'il a fait et en même temps qui n'exprime aucun regret par rapport à ses actes.
Gilles Manceron, du comité central de la Ligue des droits de l'homme.
Qui justifie en quelque sorte les décisions qui ont conduit à ces actes d'assassinat, de disparition forcée, comme on les désigne maintenant, et de torture suivie de meurtre. Donc il y a une règle de silence que Paul Ossarès a enfreinte.
Avec son livre intitulé « Services spéciaux, Algérie 1955-1957 », publié aux éditions Perrin, véritable pavé dans la mare de l'armée, la grande muette devient bavarde, sans doute même un peu trop.
Dans son livre, il m'a avoué qu'il y a plein de choses qu'il revendique et qu'il n'a pas commises. Mais il le fait pour couvrir les hommes avec lesquels il travaillait. Un commando qu'on a appelé une sorte d'escadron de la mort, avec lesquels il a travaillé à Alger, de jour comme de nuit, en 1957. Et il voulait les couvrir. Et il dit finalement, si c'est eux qui ont fini par exécuter les torturés, c'est moi qui l'assume. Même si je ne l'ai pas commis, j'assume, je suis responsable. Nous étions tous responsables.
Florence Baugé, ancienne journaliste du Monde.
Le cri de guerre vis-à-vis d'Ossarès était « étouffe-toi, écrase-toi ». On voulait le faire taire. L'ancien chef d'état-major dont je vous parlais tout à l'heure a pris contact avec une de ses 3 filles pour essayer de voir si on ne pouvait pas le faire interner. Je l'ai su par la 2e épouse d'Ossarès, pour l'empêcher de continuer à parler. Et ça a été la grande terreur de l'armée ces années-là. C'était qu'est-ce qu'Ossarès allait encore dire. Il a eu droit à quand même 3 attentats. Hein. 2 valises piégées sur son domicile boulevard du Montparnasse, et une balle place de la Bastille, et c'est celui, un de ses amis, je suis sûre un ancien para, qui lui servait de garde du corps, qui a pris la balle dans la cuisse. Je ne sais pas si ce sont des attentats qui étaient destinés simplement à l'intimider ou à vraiment le supprimer. Qui, je ne peux pas savoir. À mon avis, ça me paraît un peu douteux que ce soit le gouvernement, que ce soit sur ordre du gouvernement. Ça aurait été comme ça dans les années 60-70, je vous aurais dit. Ça ressemblait bien au gouvernement de l'époque, du moins je crois le savoir par l'histoire. Mais là, dans les années 2000, ça me paraît un peu douteux. J'ai l'impression que c'était entre barbouzes et militaires. Certains qui voulaient le faire taire, qui voulaient l'intimider. J'ai eu l'impression que c'était plutôt ça. Mais vous savez, comme il ne se vantait jamais, c'était une des caractéristiques d'Osarès, il ne se vantait jamais. Je l'ai su incidemment, ces trois attentats, mais il n'a jamais voulu m'en dire plus.
Général Jacques Massu.
On m'a demandé d'aller très vite.
France Inter 2001.
Plus vite possible, étant donné le mal que faisaient les Félagas dans Alger même. Leur campagne de bombes qui tuait beaucoup d'innocents. Il fallait y aller. À partir du moment où il faut y aller, bon ben, s'ils ne voulaient pas parler alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On était obligé de les secouer un peu. Je les regrette évidemment, je regrette qu'ils soient allés à ce point-là.
J'ai toujours vécu pour la France.
Général Marcel Bijard, 2001.
Bijard, torturant, violant les femmes, laissez-moi rire, je suis incapable d'écraser un poulet sur la route, voilà tout ce que j'ai à dire. Mais tout ça, c'est tellement d'un ridicule, d'un faux, je me demande qui a pu manipuler cet article 45 ans après.
Hier, Lionel Jospin évoquait le devoir de vérité et confirmait la prochaine ouverture des archives de l'administration sur cette période.
France 2, mai 2002.
Pour Pierre Vidal-Naquet, il n'y a pas de doute. Cet historien, figure de proue de l'anticolonialisme, considère que les responsables politiques de l'époque savaient tout. Aujourd'hui, la majorité des parlementaires renvoie aux historiens.
On ne va tout de même pas passer notre temps à faire des commissions d'enquête sur les événements du passé, datant d'au-delà de 40, 50 ans, pourquoi pas la bataille de Bouvines.
Aujourd'hui, se lancer dans une espèce de gymnastique de repentance publique, alors qu'on ne sait pas exactement ce que la guerre d'Algérie a été, il faut laisser les historiens faire leur travail.
Il aura fallu attendre octobre 1999 pour que ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie prennent officiellement le nom de guerre par un vote des députés. Un passé que la France a décidément bien du mal à assumer.
Toute l'armée française était impliquée là-dedans, le ministre de la Défense, le président du Conseil. On torturait partout, les appelés découvrent ça, on torture partout. Alors, il y en a qui résistent, hein. Ils ne sont pas nombreux, mais le seul, c'est le général Labollardière qui finit emprisonné, hein, parce qu'il annonce ça.
Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine.
On justifie la torture avec des arguments religieux d'ailleurs. À travers la Cité catholique, qui est un centre de formation proche des intégristes, très présent dans l'armée. On va justifier la torture comme au moment de l'Inquisition. Enfin, il y a tout un argumentaire qui va être développé. On crée des cellules partout chez les militaires pour leur donner des arguments sur la torture.
Lorsque nous avions capturé certains auteurs de ces actes, eh bien, nous tentions de reconstituer l'organisation qui leur avait permis d'avoir la possibilité d'accomplir ces actes.
Paul Osarès, France 2, 23 novembre 2000.
Les lois de la guerre autorisent la torture, d'après vous?
Certes pas.
Alors pourquoi?
Eh bien parce que la justice, à l'époque, était impuissante à décider du sort de ces auteurs d'actes de terrorisme.
Bah, vous exécutiez les gens très vite, donc la justice n'avait pas le temps de s'en mêler?
Il aurait fallu des mois avant qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête, d'abord, et ensuite d'un jugement.
Osarès, c'est un professionnel du mensonge et de la manipulation. Et pour moi, là où il est très difficile à démentir comme historienne, c'est que il ne ment pas à 100%, il brode. Et ça, c'est la patte des hommes du renseignement.
Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
Et donc, je pense qu'il y a une part de fascination aussi. Bien qu'il soit mauvais orateur, l'homme suffit peut-être à fasciner, même y compris avec son bandeau sur l'œil qui n'a rien à voir avec une quelconque blessure de guerre, mais qui peut tout de suite susciter l'imaginaire. Il y a peut-être tout un imaginaire qu'il déclenche et qui suffit à faire son succès. Au-delà de ce qu'il dit, il y a la fascination pour cet homme, encore une fois, longtemps resté dans l'ombre, sauf pour les historiens, l'homme des services de renseignement, qui a quand même aussi, à mon avis, des formes de techniques de séduction. Moi, évidemment, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai l'impression qu'il avait un certain pouvoir de séduction auprès des gens qu'il rencontrait, même des gens qui allaient le voir pour qu'il dénonce la torture. Il y a quelque chose de fascinant chez lui, qui doit jouer.
Autre gros titre de l'actualité de ce vendredi, avec les suites du scandale provoqué par la parution hier du livre du général Sarès. Toute la question est de savoir maintenant comment traduire au plan judiciaire l'indignation partagée par de nombreuses personnalités politiques, dont la ministre de la Justice, Marie-Lise de Branchu, qui évoque des propos abominables, tout en reconnaissant les difficultés d'engager des poursuites judiciaires.
France 2. Mai 2001.
Une brèche en tout cas a été trouvée ce soir par la Ligue des droits de l'homme qui a déposé plainte pour apologie de crimes et de crimes de guerre contre celui qui a donc avoué, raconté, torture et exécution qu'il a commises pendant la guerre d'Algérie.
Poursuivre le général Osarès pour crime relève selon la chancellerie d'une mission presque impossible. Les tortures, les actes de barbarie perpétrés pendant la guerre d'Algérie sont en effet comme tous les autres crimes de guerre soumis à la même loi, celle de la prescription, au bout de 10 ans. Il est impossible de les poursuivre. Resterait alors à tenter de les qualifier en crime contre l'humanité, un crime imprescriptible. Mais là encore, les obstacles juridiques sont nombreux.
Depuis 1994 et le nouveau code pénal, le crime contre l'humanité est défini, mais il doit résulter d'un plan concerté, établi à l'avance et structuré. Ce plan concerté, il sera extrêmement difficile de le démontrer, même s'il est évident que la torture et les exécutions sommaires ont été une pratique systématique, encouragée par le pouvoir politique, mais certainement pas d'une manière explicite et écrite.
Et si tous ces obstacles étaient contournés, resterait une autre difficulté de taille, celle de l'amnistie. Un décret de 1968 est très clair, prévoyant l'amnistie générale de toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie. Conscient de toutes ces difficultés, mais aussi de l'impossibilité de rester inactif, la Ligue des droits de l'homme a porté plainte pour apologie de crimes de guerre.
Il n'est effectivement pas tolérable que non seulement ces faits puissent être étalés dans ce qui est aujourd'hui l'impunité du général Osarès, mais qu'il puisse en plus s'en glorifier sans être sanctionné. Un tribunal doit dire au moins qu'il n'est pas possible et qu'il n'est pas tolérable de se vanter d'avoir torturé et exécuté.
Des actions criminelles transformées pour l'instant en simples délits de presse, mais qui amènera peut-être un vrai débat public et politique.
L'apparition de ce premier livre de Paul Osarès a choqué beaucoup de gens.
Gilles Manceron, du comité central de la Ligue des droits de l'homme.
Et la Ligue des droits de l'homme s'est interrogée. Elle s'est interrogée sur la pertinence et la possibilité pratique de faire une action judiciaire. Une action judiciaire sur les faits était contradictoire, était considéré comme impossible, vu les amnisties qui ont suivi les accords d'Évian. Il y a eu, au moment des accords d'Évian, une décision politique de passer l'éponge et d'oublier. Et ça a été la première loi d'amnistie qui n'était que partielle, puis a été suivie d'autres qui ont été chacune plus complètes et plus étendues.
Quand il y a la négociation des accords d'Évian, il y a l'idée qu'il va y avoir une amnistie.
Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
C'est un peu évident qu'elle sera réciproque, mais dans les accords d'Évian, il y a l'amnistie des Algériens qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, vous aviez plein d'Algériens emprisonnés qui sont libérés. Et donc, l'amnistie a toujours été présentée côté français comme une réciprocité. En réalité, ce n'est pas écrit dans les accords. Mais du coup, le décret concernant les faits commis par l'armée française en Algérie après le 1er novembre 1954, c'est un décret qui empêche toute poursuite. Ce n'est pas une amnistie où on efface des peines prononcées, c'est qu'on empêche les poursuites. Et c'est ça qui est fondamental, parce que ça veut dire qu'il y a impunité. Là, il n'y a pas de logique de fermeture des plaies. On empêche de déposer plainte à l'avenir. Et les procédures en cours sont closes par des non-lieux. C'est pour ça que cette amnistie, elle est particulière et que c'est vraiment l'amnistie de l'impunité.
La Ligue des droits de l'homme s'est interrogée. Il y avait du côté de la FIDH, de la Fédération internationale, peut-être une volonté quand même de marquer le coup en instaurant une procédure qui, même si elle ne pouvait pas aboutir dans le contexte juridique, pourrait quand même attirer l'attention sur les limites de la justice pour ce qui est des crimes de guerre, puisque on poursuit, notamment dans le cadre de la Cour pénale internationale ou de tribunaux spéciaux ad hoc Rwanda, ex-Yougoslavie, on poursuit des criminels de guerre. Mais parmi tous ceux qui ont été poursuivis, on ne trouve pas d'exemple d'occidentaux, notamment de Français, malgré tout ce qui a été commis par les forces de l'ordre françaises durant la guerre d'Algérie. Et il y a quand même une forme d'injustice qui est d'ailleurs fortement ressentie par les personnes du Sud, qu'il s'agirait peut-être de souligner. Et c'était un peu le point de vue de la FIDH à l'époque. Je me souviens de la position de Patrick Baudouin, qui était le président à l'époque et qui est souvent à l'origine des procédures judiciaires. Eh bien, il était quand même attaché à ce principe d'introduire une procédure, de porter une forme de plainte pour crime de guerre, même si les faits n'étaient pas judiciarisables, si je puis dire, en raison des amnisties. Donc il y a eu un premier débat là-dessus, mais le point de vue qui a prévalu, c'était le point de vue quelles sont les lois en vigueur. Il y a eu des lois d'amnistie, on peut discuter sur le fond de leur pertinence, de leur opportunité. En tout cas, elles ont été adoptées, elles s'imposent donc juridiquement, et la Ligue des droits de l'homme a donc pris acte de l'impossibilité de poursuivre Osarès sur les faits commis. Cela signifiait-il qu'aucune procédure ne pouvait être introduite par la LDH. Et c'est là où Michel Tubiana, qui était président à l'époque, avocat lui-même, dit « J'ai peut-être trouvé une solution qui est de poursuivre l'ouvrage pour apologie, apologie de crimes de guerre. » Non pas pour crimes de guerre, l'auteur de ces crimes, mais l'ouvrage pour apologie de. Mais la loi dite sur la presse implique que le responsable d'une publication, qu'il s'agisse d'un éditeur d'un livre ou d'un directeur de publication d'un périodique, doivent être tenus responsables pour ce qu'ils publient. Et donc, cela impliquait que l'on poursuive Osarès et que l'on poursuive aussi l'éditeur du livre d'Osarès. Et là, ça gênait la Ligue des droits de l'homme parce que elle est pour la liberté de l'édition et de l'expression. Dans une société démocratique, comme le dit la Convention européenne, celle-ci implique la possibilité d'exprimer des idées qui sont contraires à nos valeurs, et qui sont choquantes et qui sont contraires à la démocratie. Donc, c'était un petit peu gênant. Néanmoins, c'était la seule possibilité de réagir, de faire quelque chose, quoi. Alors, il y a eu une procédure qui a été engagée en première instance. C'est Henri Leclerc qui a été désigné pour plaider au titre de la LDH, aussi bien en correctionnel en première instance qu'ensuite au Conseil d'État. Et il a été désigné comme avocat de la LDH dans cette procédure.
Au procès lui-même, Osarès était défendu par Gilbert Collard.
Maître Henri Leclerc.
Gilbert Collard qui était auparavant plutôt à gauche, qui donc commençait son orientation. Bon, nous avons eu assisté à une défense classique et on a eu un procès qui a duré 2-3 jours, je me souviens, qui a été un procès assez agité.
Alors sur quelle base la défense de Maître Collard s'est-elle axée ?
Eh bien, la défense de Collard s'est axée sur deux choses. D'une part, la justification des actes qui ont été commis, en disant « mais je ne suis pas responsable en gros de ces actes, je l'ai fait, mais j'ai obéi aux ordres en gros bon. ». Et sur le fait que la liberté d'expression permettait de dire ce qu'on avait fait sans le regretter et en le présentant sous un jour favorable. Ça, c'est la position de la défense. La nôtre était de dire non, là, vous avez dépassé une certaine limite. C'est d'avoir dit que c'était bien et d'avoir dit qu'il fallait faire ça. De donner cette tortures ou ces exécutions sommaires comme une loi normale du droit de la guerre. Voilà, ce qui nous paraissait absolument impossible, et la justice s'est passée là-dessus.
Je me souviens que j'ai été appelée à la barre, que je ne voulais pas y aller, parce que tout ça, c'était trop pour moi.
Florence Baugé, ancienne journaliste du Monde.
Et qu'un de mes confrères du Monde, Franck Johannes, m'a dit, l'avant-dernier jour du procès, écoute, la cour, faudrait vraiment, vraiment que tu viennes, vas-y, pour les éclairer, ils ne comprennent rien au SARES. Donc j'y suis allée le dernier jour. Je me souviens mal de tout. Je me souviens simplement qu'on m'a demandé, est-ce que vous estimez qu'il a apporté quelque chose à l'histoire ? Grosso modo, est-ce que son livre a une utilité ? Et je me souviens que j'ai répondu oui. Il a apporté quelque chose. Même si on trouve que tout est abominable et tout, il a fait progresser la connaissance des choses et l'histoire. Donc, il me semble qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Jusque-là, si vous voulez, nous n'avions que ou des victimes ou des témoins qui parlaient, ou des figures droits de l'homme, mi-historien, mi-droits de l'homme, comme Vidal Naquet, des journalistes, Claude Bourdet, Pierre Janson, vous aviez plein de gens qui dénonçaient, mais on n'avait pas la preuve, parce que ce n'est pas dans les archives que vous allez trouver ça. On court après les archives, mais tout ce qui est important de ce type de choses a déjà été détruit par l'armée. Moi, je suis sûre qu'on ne trouvera rien de ce... On trouvera d'autres choses. Ça vaut toujours le coup d'ouvrir les archives, mais pas là-dessus. Donc, je trouve que ce qui est phénoménal, si vous voulez, le tournant des années 2000, ce sont des acteurs qui s'expriment.
C'est très important parce que, malgré tout, on est toujours dans une situation en France, au début des années 2000, de devoir apporter la preuve. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation où nous sommes confrontés à des négationnistes de ces formes de torture et de violence.
Malika Rahal, historienne française et algérienne, spécialiste de l'Algérie.
Dans la mesure où on est face à la possibilité de la dénégation, les travaux des historiens essayent d'être aussi corroborés que possible, mais ce que l'on cherche, c'est ce qu'on appellerait en anglais le smoking gun, le revolver fumant, le document par lequel les militaires s'incriminent eux-mêmes ou le témoignage par lequel les militaires s'incriminent eux-mêmes. Dans ce contexte-là, les mémoires d'Osarès, c'est vraiment important parce qu'on a des pages et des pages et des pages et des pages d'un militaire qui incrimine l'armée elle-même et que d'une certaine façon, ça nous libère de cette nécessité de ce combat pour sans cesse devoir apporter la preuve contre une rhétorique négationniste.
Guerre d'Algérie, procès Osarès, amnistie pour les crimes, procès pour les aveux.
Osarès et la torture.
S'il fallait le refaire, je le referais. Le Nouvel Observateur.
La torture, sans plaisir, mais sans remords non plus. Libération.
Le général Osarès, jugé pour complicité d'apologie de crimes de guerre. Le Monde.
Procès Osarès, une brèche qui s'ouvre. RFI, 29 novembre 2001.
Le parquet avait requis condamnation, on a obtenu condamnation. D'ailleurs, ils ont condamné les éditeurs plus que l'auteur. Collard a fait appel, on a obtenu confirmation à la Cour de cassation. Et il y a eu un retour, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Les éditeurs ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, justement à cause de la condamnation des éditeurs. En disant, après tout, les éditeurs n'ont fait que leur métier. C'est bon, c'était assez intéressant. Mais bien entendu, Osarès est resté condamné.
Il faut qu'on se batte.
France 2.
Non pas tant pour le livre du général.
Janvier 2002.
Mais pour qu'on puisse en France exprimer sa conception de l'histoire.
Maître Gilbert Collard.
Sans être soumis à la férule de professeurs de droit, de juges qui visitent l'histoire selon leur conception.
Une amende de 7 500 € pour Paul Osarès, 15 000 € pour les éditeurs. Le tribunal estime qu'ils n'ont pas mis en garde les lecteurs en expliquant que les actes relatés étaient des crimes de guerre.
Comment expliquer que les éditeurs aient été plus lourdement condamnés qu'Osarès et Buesque ?
Ben, on peut se demander si les juges n'ont pas voulu mettre le doigt sur l'ambiguïté de la procédure introduite par la Ligue des droits de l'homme, qui se trouvait plaignante contre des éditeurs, ce qui est contraire à tous ses principes, puisqu'elle est pour la liberté de l'édition. Et donc, en condamnant plus lourdement les éditeurs que Paul Osarès lui-même, ils ont mis l'accent sur le côté problématique de cette procédure judiciaire et ont peut-être souhaité interpeller la Ligue des droits de l'homme sur son absence de constance dans ses principes de respect de la liberté de l'édition et de l'expression. Mais la LDH a obtenu cette condamnation symbolique, en même temps qu'elle a demandé d'ailleurs que la Légion d'honneur lui soit retirée. Ce qui s'est produit, c'est Jacques Chirac, comme président de la République, qui a retiré la Légion d'honneur. Mais c'est peu significatif de l'ampleur des crimes de guerre commis par des responsables des forces de l'ordre françaises à l'époque.
Juger son livre, moi j'ai été vraiment totalement en désaccord avec ce type de procédure, mais vraiment radicalement en désaccord.
Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
Parce que condamner quelqu'un pour apologie de crimes de guerre, certes, hein, on peut estimer que c'est moralement tout à fait défendable, simplement c'est condamner quelqu'un ou essayer de faire condamner quelqu'un pour ce qu'il a dit et non pour ce qu'il a fait. Donc il y a quand même une perte de sens pour moi, juridiquement et politiquement. Voilà. Ensuite, condamner quelqu'un pour ce qu'il a dit, ça veut dire que c'est quand même un petit peu embêtant pour des historiens et des historiennes, parce que maintenant, quand on va aller voir des témoins, ils risquent de se censurer en ayant la crainte éventuelle d'être poursuivis si on rend public les propos qu'ils ont tenus. D'ailleurs, les procédures contre Sarès et son éditeur, in fine, ont été annulées par la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la liberté d'expression. Donc moi, je suis radicalement opposée à ce type de procédure. C'est en fait de la condamnation par défaut qui, à mon sens, a plus d'effets pervers que d'effets bénéfiques. La torture est un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité n'est pas amnistiable. Donc, c'est sous cet angle-là, à mon sens, qu'il faut le prendre. Ça n'a pas été possible pendant longtemps parce que les définitions françaises du crime contre l'humanité avaient cette condition d'un lien avec les puissances de l'Axe. Donc, le crime contre l'humanité était circonscrit à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi toute une jurisprudence de la Cour de cassation qui a tout fait également pour empêcher que l'on puisse invoquer le crime contre l'humanité dans le cadre de guerres coloniales, que ce soit l'Indochine ou l'Algérie. Mais ça, ce sont des constructions juridiques. Enfin, les définitions dans la loi ou dans le code pénal, c'est le travail des parlementaires. La jurisprudence, c'est le travail des magistrats. Aujourd'hui, si vous regardez la définition du crime contre l'humanité dans le code pénal, cette condition des puissances de l'Axe n'y est pas. Il y a l'idée d'un plan concerté qui peut poser problème si vous l'appliquez à l'Algérie. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne devrait pas continuer de dire ce qu'il en est juridiquement. La torture est un crime contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité ne sont pas amnistiables.
Personne n'avait envie qu'on aille tellement plus loin.
Florence Boger.
Parce que eux, les anciens combattants, ça leur faisait trop mal. L'armée, ça lui faisait honte. Et les Algériens eux-mêmes n'étaient pas... Je les ai jamais trouvés très, très demandeurs de déballer tout ça. C'est un tel traumatisme pour eux. Et puis, si vous voulez, je crois qu'on se souvient de l'humiliation, mais on ne se souvient pas de la douleur. Et tous ceux qui ont été torturés ont pardonné, je parle en Algérie, ont pardonné complètement à l'armée française. Et aux Français encore plus. En revanche, les humiliations, elles, sont restées. Et les humiliations, c'est le viol. Et ça, c'est jamais passé. Et là, je crois que l'Élysée ne l'a toujours pas compris, l'importance du viol dans la question de la réconciliation franco-algérienne. Il me semble, tant qu'on n'aura pas soulevé cette question, tant qu'on la... C'est pas qu'on la nie, c'est qu'on fait comme si elle n'existait pas. On restera dans le non-dit entre Paris et Alger, il n'y aura pas de réconciliation. C'est un historien algérien qui m'a dit ça il n'y a pas tellement longtemps, il y a 6 mois. Il m'a dit en fait, ce qui bloque profondément la réconciliation franco-algérienne, c'est peut-être bien la question des viols. Et je suis tombée des nues parce que je n'avais pas pensé à ça, mais dans le fond, il y a peut-être du vrai. Puis vous savez, c'est des traumatismes qui se transmettent de génération en génération.
C'était Paulo Sarès, La torture est mon métier, avec Florence Boger, Sylvie Thénault, Malika Rahal, Marie-Monique Robin, Claire Moscopo, Gilles Manseron et Henri Leclerc. avec les témoignages d'Adam Ramdam, d'Henri Alleg et de Louisette Iguilariz. Avec les lectures de Mousse Zouahiri, Nathalie Canoui et Olivier Martineau. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Hussein-Bazic, rescapée de la guerre de Bosnie, spécialiste des crises et des conflits, ancienne du TPY. Merci également à Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire. Prise de son Eric Boisset, mixage Julien Douminc, réalisation Marie-Laure Ciboulet, attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé. Un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé. Médine et métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part française s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous que nos oreilles étaient aux arrêts et que nos yeux voyaient l'histoire par l'œil d'Osarès? Pensiez-vous que la mort n'était que mauresque, que le seul sort des Arabes serait commémoré? On ne voulait pas d'une séparation de crise, de ne pouvoir choisir qu'entre un cercueil ou une valise. Nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française, ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. Pourtant je me souviens du FLN qu'avec panique et haine, qui a rendu une juste cause aux méthodes manichéennes. Trancher les nez de ceux qui refusent les tranchées dévisagées, car la neutralité fait de toi un étranger. Tous les Français n'étaient pas hommes de la machine, praticiens de la mort, revanchards de l'Indochine. Nous souhaitions aux Algériens ce que nous voulions 10 ans plus tôt pour nous-mêmes, la libération d'une dignité humaine. Nous n'étions pas tous des gens moulins, mais loin d'être gens foutistes, proches de Jean-Paul Sartre et des gens jusqu'aux bouddhistes. Tantôt communistes, traîtres car porteurs de valises, tantôt simples sympathisants de la cause indépendantiste. Je refuse qu'on m'associe aux généraux dégénérés. Mes grands-parents ne seront jamais responsables du mal généré, du mal à digérer. Que l'histoire en soit ingerbée, que des deux côtés de la Méditerranée tout soit exacerbé. Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger crie, Alger peur, Alger prie, Alger pleure, Algérie. J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé. Un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé. Médine et métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part algérienne s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure? Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur. On n'oublie pas les djellabas de sang immaculé, la dignité masculine aux têtes d'un homme émasculé. Les corvées de bois creusées sa tombe avant d'y prendre emploi. On n'oublie pas les mutilés à plus de 30 ans. Droit. Les averses de coups, le supplice de la goutte, les marques de boots sur le nord des Dunoud. On n'oublie pas les morsures du peloton sylophile et les sexes non circoncis dans les ventres de nos vies. On n'omet pas les lois par la loi de l'omerta. Main de métal national écrase les lois mahométanes et les centres de regroupement pour personnes musulmanes. Des camps de concentration au sortir de la seconde mondiale. On n'oublie pas ses ennemis, les usines de la mort, la villa Cesini, épaule trapée, vert dominant sur ma banderole, ma parole de mémoire d'homme, les bourreaux n'auront jamais le bon rôle. Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger...
Al, j'écris. Al, j'ai peur. Al, j'ai peur.